Alors, comme je le disais, une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par les publics jeunes et par les enfants en particulier. Et sauf erreur de ma part, je crois qu'ils n'ont jamais été abordés au cours de notre journée d'études. Il nous est arrivé de parler des lycéens. Je vois Hélène Deleuze dans la salle, hein, puisqu'il y avait eu quelques enquêtes réalisées à la BNF et à la BPI sur les publics lycéens réviseurs. Mais nous n'avions jamais eu l'occasion de parler des enfants. Et j'ai trouvé intéressant, avec la parution de ce numéro de la revue des livres pour enfants, consacré en partie à la question des lectrices et des lecteurs en section jeunesse des bibliothèques françaises, de vous présenter ce numéro et donc de mettre un coup d'éclairage sur les publics jeunes. Donc je suis très content. Oui, on va peut-être lancer la diapo où on va voir justement une très jolie photo d'une lectrice en bibliothèque. Donc je suis très heureux d'accueillir Véronique Soulet et Romain Gaillard. Donc Véronique Soulet, qui est une ancienne bibliothécaire jeunesse plutôt, voilà, ouais. Livre au trésor, enfin tu auras peut-être l'occasion d'y revenir rapidement. Associé de recherche, il nous est arrivé d'ailleurs à plusieurs reprises de collaborer ensemble, hein, parfois de façon indirecte avec Stéphane Bonnery, hein, notamment, voilà. Et productrice radio, puisque Véronique anime jusqu'à maintenant, avec d'autres projets, tu nous en parleras peut-être, une émission qui s'appelle « Écoute ».
Il y a un éléphant dans le jardin. Personne ne s'en souvient jamais.
Mais non, parce qu'on pense au magasin de porcelaine. Et ouais, voilà. Il est dans le jardin, cet éléphant. Voilà. Et Romain Gaillard, qui est directeur du CNLJ, le Centre national de la littérature pour la jeunesse à la Bibliothèque nationale de France, et qui, par conséquent, est aussi à l'origine de la production de ce numéro. Il y reviendra un petit peu plus longuement. Et je lui passe tout de suite la parole, justement, pour nous présenter la revue et le dossier qui a été consacré au public jeune.
Merci beaucoup Christophe, merci de ton invitation. Je suis très heureux de vous retrouver tous les deux, toi Christophe et toi Véronique, ici à la BPI aujourd'hui, pour parler de ce numéro sur lequel on a eu une collaboration assez intense pendant plusieurs mois. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est si on a travaillé avec vous, c'est parce que vous êtes tous les deux dans le comité de rédaction de la revue des livres pour enfants. C'est pour ça que je vous ai recruté pour ce projet un petit peu fou. Donc, juste pour vous présenter rapidement, pour les malchanceux qui ne connaîtraient pas la revue des livres pour enfants, c'est une revue professionnelle donc, qui est publiée par la BNF, avant par La Joie par les livres, avant que le CNJ devienne un service de la BNF en 2008, qui aura 60 ans l'an prochain. Donc c'est quelque chose qui fait sens dans le milieu des bibliothèques, notamment des bibliothèques jeunesse, avec à chaque fois des rubriques récurrentes, puisqu'il y a toujours une moitié critique d'actualité de l'édition jeunesse. Vous savez, il y a 6800 nouveautés à l'année en littérature jeunesse, et dans chaque numéro de la revue, on en critique les 250, 275. Il y a des actualités de la recherche sur la littérature jeunesse, sur les pratiques de lecture dans chaque numéro, et il y a également un dossier thématique qui change à chaque numéro de la revue. Le prochain, si vous êtes abonné, vous commencerez à le recevoir dans 2-3 jours. Il aura trait à la relation avec la nature. Et le numéro précédent, c'était Portrait de lecteur, mais sur une année, on a sorti aussi un numéro sur la littérature jeunesse en République tchèque, sur l'autrice de romans pour ados, Marion Brunet, sur les méchants, sur les mangas notamment. Pour avancer, j'utilise ça. Donc ce dossier, il est parti d'une idée de mon ancienne adjointe Marine Planche, qui travaille maintenant à la BPI. C'est une idée qui, en échangeant avec elle et puis aussi avec mon prédécesseur, Jacques Vidal-Naquet, mûrissait depuis 2 ans. Donc les sujets des numéros de la revue, ils remontent parfois de manière assez ancienne. Il y a une maturation des fois assez lente, et puis des fois, hop, après il y a un coup d'accélération considération qui est donnée avec le comité de rédaction. Et l'idée de ce dossier, c'était, parce que nous, au CNLJ, on travaille sur les collections à destination des médiateurs du livre, hein, bibliothécaires, documentalistes, associatifs, mais là, on voulait redonner la parole aux enfants qui est ceux pour qui nous, on travaille au CNLJ. Donc l'idée, ça a été de mener des entretiens, de mener dans des bibliothèques avec des profils géographiques assez variés, pas de la zone urbaine, de la zone périurbaine, de la zone rurale, donc des entretiens avec des enfants sur un profil restreint pour des questions de temps, pour avoir en fait une espèce de kaléidoscope de ce que les lectrices et les lecteurs apprécient dans leur bibliothèque, de leur rapport à la lecture, en également complétant ces entretiens qui sont un peu le cœur du dossier par aussi une histoire des bibliothèques jeunesse qui nous a été fournie de manière assez magistral par nos collègues Valérie Travier et Valérie Robin du ministère de la Culture. Et on a aussi ajouté le regard d'une illustratrice norvégienne qui a un petit peu le vent en poupe, qui s'appelle Marie Constat Jansson. Donc quand je dis que c'était un petit projet un petit peu fou, donc on s'y est mis il y a quasiment un an, au tout début du mois de juillet, et ça a été une organisation assez intense, assez intensive, parce qu'il a fallu déjà qu'on détermine avec Christophe, avec Véronique, un protocole d'entretien, comment on allait prendre des contacts avec des bibliothèques, en se faisant aussi relayer par certaines bibliothèques départementales, qui nous ont beaucoup appuyé, avec la ville de Paris pour les photos, notamment. L'essentiel des photos que vous verrez dans le numéro, c'est des photos prises dans plusieurs bibliothèques de la ville de Paris. On a cherché d'avoir finalement à chaque fois, dans les entretiens comme dans les photos, un petit peu des idéotypes. Entre des bibliothèques toutes récentes, des bibliothèques qui ont une dizaine d'années, d'autres un petit peu plus anciennes, qu'on pourrait qualifier un petit peu dans leur jus, mais qui font sens quand même pour leurs usagères et leurs usagers. Il y a forcément des petits manques dans ce dossier. Il manque l'outre-mer, par exemple, parce que voilà, on était contraint par le temps, on avait peu de relais là-bas. On s'est aussi focalisé sur une tranche d'âge, sur les 7-12 ans. On a eu la chance d'avoir un super accompagnement par le service juridique de la BNF, parce que dès qu'on parle de choses à faire avec des enfants, là tout de suite, il y a des tas de protocoles à mettre en œuvre, parce qu'il y a le RGPD, il y a le droit à l'image, le fait de capter la parole d'un enfant, c'est considéré aujourd'hui comme étant quelque chose relevant du RGPD aussi, donc il a fallu qu'on se sécurise juridiquement parlant. C'est pour ça que les entretiens, on les a fait via la plateforme Zoom de la BNF, et pas via autre chose, avec tout un ensemble d'éléments juridiques assez complexes à faire signer aux parents. Et puis, on a mis à profit l'été pour tester les entretiens. Véronique à la bibliothèque Vaclavavel, moi auprès de mes filles, mais bon, on les a pas mis dans le numéro, mais tester un petit peu là, parce que j'avais de la matière à la maison, autant tester un petit peu l'entretien avec ce que j'avais. Et puis surtout, on a eu Christophe qui a formé les bibliothécaires qui allaient faire les entretiens à mener un entretien qualitatif. Donc on a organisé un webinaire pour ça. Et donc on a ensuite utilisé principalement la plateforme Zoom pour capter les entretiens. Ce qui a fait d'ailleurs que nous, on était en écoute. Mes collègues du CNLJ, Agnès Bergonzi, Virginie Meyer, que certains d'entre vous peuvent connaître, qui écouter ce qui était capté, ça permettait de rebondir aussi sur les questions quand ça tournait un petit peu à vide. Et on a vu d'ailleurs certaines collectivités qui captaient de leur côté. Du coup, les entretiens étaient un petit peu plus déceptifs. Et bon, voilà, c'est le jeu. On a mobilisé en tout une douzaine de collectivités, ce qui a donné une bonne trentaine, quasiment 40 entretiens qu'on a réduit à 11 ou 12 portraits, qu'on a rédigés tout au long de l'automne, pour finalement sortir ce numéro il y a quelques mois, qu'on a disposé un petit peu partout. Mais c'est vrai que moi, c'est un numéro qui me touche beaucoup. J'arrive à ne plus verser ma petite larme quand j'en parle, parce que ça a été intense, hein, et fort de le faire pour tout un ensemble de raisons, tant personnelles que professionnelles. Et en tout cas, voilà, tous les trois, on est vraiment hyper contents du résultat. Enfin, en tout cas, moi, je le suis. Pour ma part, je parle à votre place. Alors, ça devait pas apparaître normalement, donc pour pas perdre de temps, voilà, c'était un petit aide-mémoire. Tac, on va passer et je vais te laisser la parole, Christophe, pour présenter un des portraits, justement.
Oui, mais alors, avant de vous parler, donc je confirme, nous sommes très fiers d'avoir participé à cette aventure et d'être parvenu au dossier, hein, tel qu'il est présenté. Hein, c'était une gageure et je trouve que c'est une expérience vraiment très, très réussie. C'est pas une recherche à proprement parler, c'est pas non plus une enquête par délégation, hein, c'est un travail de terrain, hein, on peut dire que c'est une enquête qui a une valeur exploratoire, mais si vous parcourez le dossier, vous verrez qu'il y a quand même pas mal de matière. Je commence peut-être par pour vous montrer un peu, pour vous donner un exemple de la saveur des entretiens, une petite citation de Nola, qui a 10 ans, hein, qui est interviewé à la médiathèque de Clisson, en Loire-Atlantique, hein, c'est une ville d'un peu moins de 8000 habitants. Et à 10 ans, elle dit la chose suivante, Nola. Elle dit, souvent, en fait, on se donne un rendez-vous à la médiathèque, entre copains et copines. On est toute la petite bande qui regarde tous les livres. D'abord, t'en as un qui arrive, puis après, t'as le deuxième qui montre tous les livres, et puis le troisième et le quatrième. Du coup, t'as toute la petite bande qui se balade dans la médiathèque. Et quand t'en as un qui part, bah, t'as toute la petite bande qui part. Voilà. Je trouve ça très, très vivant. Alors, je passe à Émilie. Émilie a 11 ans et demi, donc elle était interviewée à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Interviewée par une bibliothécaire qui la connaît bien. Alors évidemment, on peut dire que c'était un filtre, hein, ça, c'est-à-dire que les enfants ont été sélectionnés par les bibliothécaires, mais ça faisait partie du jeu. Donc, par certains côtés, on a affaire à des bonnes clientes et des bons clients. Hein, ce sont des gens que les médiathécaires et bibliothécaires connaissaient, appréciaient, avec lesquels parfois, pas toujours, hein. Ils avaient une relation construite depuis un certain temps, mais on a pris les choses comme elles venaient. Alors, Émilie est vraiment à la fois singulière et puis tout à fait représentative des enfants de son âge, hein. C'est une grosse amatrice de bandes dessinées, de mangas en particulier, des shoujo. Plutôt des shoujo, mais aussi pas mal de shonen, hein, donc des mangas pour filles et des mangas pour garçons. Elle témoigne dans ses propos de ce que j'ai appelé une ambiance familiale très livresque, hein, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de livres présents chez elle, hein, elle le dit, il y en a un peu partout, il y en a dans la chambre de ma sœur, il y en a dans ma chambre, il y en a dans la chambre des parents, il y en a dans le bureau de papa, et elle nous dit qu'elle s'est amusée à compter le nombre de mangas qu'elle avait chez elle, et elles sont parvenues avec sa sœur à un total de 540 mangas. C'est quasiment un fond de bibliothèque. Et on pourrait se dire que disposant d'autant de livres au domicile, ayant pas mal d'interactions autour des livres et de la lecture avec ses deux parents, aussi bien sa maman avec lesquelles elle lit des livres et à qui elle lit des livres aussi, assez régulièrement, mais avec son papa aussi, ce qui n'était pas le cas dans tous les entretiens, parce que parfois les papas étaient beaucoup moins présents. Alors on pourrait se dire qu'elle n'a pas vraiment besoin de la bibliothèque, et pourtant, 4 jours par semaine, en fait, elle attend la navette à la sortie du collège à la bibliothèque. Et donc, elle a 20 minutes devant elle, et c'est ce qui lui permet de lire, et en particulier de lire des bandes dessinées. Alors, elle le dit dans l'entretien, je ne suis pas trop roman. Elle n'aime pas les livres qui sont trop gros, alors je la cite, hein, je ne suis pas trop roman. J'aime bien les romans, mais quand même, ils sont trop longs et trop compliqués. Un peu trop long, un peu trop compliqué. je suis pas très fan. Et en même temps, en fait, à mesure que l'entretien se prolonge, et c'est l'intérêt d'une méthode qualitative, hein, c'est vrai que dans une enquête quantitative par questionnaire, je pense que Émilie se serait déclarée non lectrice de romans et appréciant particulièrement la bande dessinée. Et en fait, au cours de l'entretien, elle va parler d'un certain nombre de romans qu'elle a lus avec ses parents, qu'elle a parfois partagé aussi avec la bibliothécaire qui l'interviewe, avec laquelle elle a une relation de complicité assez étonnante, très équilibrée par certains côtés, quasi adulte. Hein, c'est-à-dire que Émilie conseille des ouvrages à la bibliothécaire et des mangas en particulier. Elle se conseille aussi des lectures de livres jusqu'à certains moments d'ailleurs devoir être obligée de spoiler hein, des fins d'ouvrages l'une à l'autre. Et donc elle nous dit aussi qu'elle écoute des livres audio avec ses parents et puis qu'elle apprécie beaucoup aussi Harry Potter, et en particulier ce qu'elle préfère dans Harry Potter, c'est les personnages qui ont une face sombre. Elle ne supporte pas les héros, elle ne supporte pas les personnages trop positifs. Elle a vraiment une relation à la lecture assez étonnante. Je vais vite, hein, c'est aussi, et là je vais vous lire une petite citation hein, pour que vous puissiez profiter un petit peu du discours d'Émilie. C'est aussi une lectrice qui est en voie de construction à la bibliothèque. Hein. Elle s'est trouvée une place un petit peu intermédiaire entre le secteur jeunesse et le secteur adulte. Hein. Donc elle est préadolescente hein, et on voit qu'elle va faire son chemin dans la bibliothèque. Et elle dit la chose suivante en termes d'autonomie autour de sa carte d'abonné. Quand j'étais un peu plus petite, papa et maman, à chaque fois, ils regardaient ce que je prenais. Ils me disaient « Non, ça, t'as pas le droit. Moi, je trouve que c'est trop violent. » Ses parents pensaient que c'était trop violent et tout ça. Ils étaient toujours derrière mon dos à dire « Non, ça, c'est trop violent. » Et moi, j'ai jamais pu m'affirmer et dire « Non, ça, je veux absolument le lire. » Alors que là, ils savent pas ce que j'emprunte. Et je peux lire tout ce que je veux. Et pour l'instant, je ne suis pas tombé sur quelque chose qui m'a fait trop peur ni rien. Voilà, donc je trouve ça assez intéressant. Et on a d'autres témoignages comme ça d'enfants qui prennent leur une forme d'assurance à la bibliothèque et qui utilisent vraiment la bibliothèque comme un tiers de confiance intermédiaire entre la famille, l'école, la ville en général, et qui vont s'approprier assez fort. On passe à Céleste.
Oui, donc comme vient de le dire Christophe, enfin comme on l'a dit, il y a à peu près une quinzaine de portraits dans la revue, et donc on en a choisi quelques-uns à vous présenter ce matin. Donc moi je vais commencer par Céleste, qui par certains côtés ressemble beaucoup à Émilie. Donc Céleste, elle a bientôt 13 ans, elle est en cinquième, c'est la plus âgée de notre panel. Et elle fait, donc, vous l'avez vu, la une de la revue, vous avez vu sa photo, et ça a été la testeuse de la grille d'entretien. Et on peut dire qu'elle est la cliente idéale. Notre entretien, puisque c'est moi qui ai fait l'entretien avec elle, a duré presque une heure. Il aurait pu durer deux ou trois heures tellement elle était ravie d'être là et de parler de ses lectures. Elle fréquente beaucoup la bibliothèque, deux à trois fois par semaine. Elle habite juste à côté. Donc c'est la bibliothèque Vaclav Havel dans le 18e, un quartier populaire mais en grande voie de gentrification. Et donc avec pas mal de familles CFP+, qui vivent dans ce quartier. Alors, ce que l'entretien et le portrait qu'on a écrit fait ressortir, c'est d'abord, comme pour Émilie, une complicité dont elle est très fière, sur laquelle elle revient souvent, une complicité avec les bibliothécaires, surtout un bibliothécaire avec qui elle entretient des relations très, très serrées, des liens particuliers. Elle dit même, entre guillemets, qu'elle a des privilèges parce qu'il lui met des livres de côté pour qu'elle soit la première à les lire. Elle participe aux achats de livres, elle discute beaucoup avec lui, elle suit ses conseils et elle peut même, et là elle en est encore plus fière, lui recommander des mangas qu'elle a pu repérer en librairie. Céleste, elle, donc, qui est grande, hein, elle a quand même 13 ans, elle fréquente la bibliothèque, en tout cas nous a-t-elle dit, que pour lire et relire encore des séries de mangas, mais aussi des BD, et elle les lit sur place, car sa mère est professeure de français, et ne veut plus qu'elle leur apporte à la maison, il y en a beaucoup trop. Donc elle peut rester des heures à la bibliothèque, où elle vient quand elle veut, sa mère la laisse très libre de venir, et à la différence de nombreux autres enfants, elle dit qu'elle ne vient pas retrouver ses amis, ce n'est pas du tout sa priorité, que surtout elle ne veut pas rencontrer de garçon qu'elle pourrait connaître. Elle a 13 ans, Céleste, donc c'est bien de son âge. Et du côté de la famille, Céleste est assez complice avec sa mère, qui lui fait lire des romans. Sa mère en a plein, qu'elle a gardé depuis son enfance. Et avant de dormir, comme son frère, Céleste n'a pas le droit de lire de manga, il faut qu'elle lise un roman, ce qui n'empêche pas Céleste de dire qu'elle aime lire des romans. Elle en parle beaucoup avec sa mère, avec, à qui elle fait parfois lire un roman jeunesse qu'elle a aimé, par exemple « Vive la République » de Marot de Muraille, dont Céleste garde un souvenir très fort depuis sa classe de CM2. C'est son livre préféré et ça a été aussi le livre que sa mère a beaucoup apprécié quand elle lui a fait lire. Quant au rayon roman de la bibliothèque, elle dit ne pas le fréquenter, même pas du tout d'abord parce qu'elle n'a pas besoin de ça, puisqu'elle a plein de livres de romans à la maison, mais surtout parce qu'il n'y a pas de romans best-seller, comme elle les appelle. Donc je lui ai bien fait préciser ce qu'elle appelait un roman best-seller, c'est-à-dire un roman sur lequel il y a un macaron, sur lequel est écrit best-seller. Et comme elle ne les trouve pas en bibliothèque, eh bien elle les achète en librairie. Donc sur ce bref portrait, qui était vraiment très très rapide, on peut dire que Céleste, elle a des lectures qui sont très encadrées par sa mère, mais en même temps très souples, puisque sa mère la laisse lire des mangas à la bibliothèque, mais que du coup, cette facilité encourage les goûts très éclectiques de Céleste, des goûts qui s'équilibrent entre des livres qu'on peut qualifier de légitimes et ceux qui le sont moins. Donc elle peut lire aussi bien des mangas que des romans de type littéraire, ce que lui fait lire sa mère, que des romans très grand public qu'elle va s'acheter elle-même en librairie. Les pratiques de Céleste, c'est pas le cas pour tous les enfants, loin de là, s'inscrivent dans deux lieux de lecture clairement identifiés, donc la maison d'un côté, la bibliothèque de l'autre. J'ajouterai un troisième lieu qui est celui de la librairie, et que ces trois lieux, Céleste, elle les maîtrise très bien, comme elle est très à l'aise pour naviguer d'un genre de livre à l'autre, puisqu'elle en maîtrise aussi très largement les codes. Mais, et je terminerai là-dessus sur son portrait, ce qui m'a le plus étonnée dans notre échange, et en même temps qui m'a vraiment fait sourire, c'est quand je lui ai posé la question, parce qu'on leur posait plein de questions un petit peu variées, donc quand je lui ai posé la question, quel est le livre qui t'a fait le plus rire, je m'attendais à ce qu'elle me cite un titre de bande dessinée ou un titre de manga, ou voire d'un roman, mais sans hésiter, elle m'a répondu « Le malade imaginaire de Molière ». Je ne vous dirai pas les raisons, vous les lirez dans l'article, puisque c'est la conclusion de l'article dans la revue. Alors, le second portrait que je vais vous présenter, lui, se situe quasiment, et même j'ai dit complètement à l'opposé de celui de Céleste, à différents points de vue. Donc, c'est un entretien qui s'est déroulé à la bibliothèque Daniel Renoux à Montreuil, une bibliothèque de quartier, dans le quartier du Morillon, très loin du centre-ville, un quartier prioritaire de la politique de la ville. Une petite bibliothèque de quartier de moins de 200 mètres carrés, située sur une petite place pour visualiser, vous voyez, la supérette, la boulangerie, le centre social, la bibliothèque, tout ça au pied des immeubles. Des enfants qui passent leur journée sur la place et entrent à la bibliothèque dès qu'ils voient le rideau de fer se lever. Et donc nous avions proposé de faire cet entretien en groupe et 6 enfants âgés entre 7 et 10 ans étaient là, qui m'attendaient, qui m'ont vu arriver, 6 enfants de 3 familles différentes et qui étaient très enthousiastes à l'idée de répondre à la dame qui pose des questions, c'est-à-dire c'est moi. Alors on s'est installé dans une toute petite pièce, les enfants étaient assis par terre, moi sur un tabouret, les enfants étaient serrés les uns contre les autres, et l'entretien là aussi a duré une bonne heure. Il faut dire que les autres entretiens, on ne l'a pas dit, mais en général ils duraient une bonne demi-heure. Alors pour ces enfants, ces 6 enfants-là avec qui j'ai parlé, la bibliothèque c'est leur deuxième maison. Ils sont là tous les jours, dès que c'est ouvert, ils voient la bibliothèque depuis la fenêtre de leur appartement. Donc ils y foncent et ils y restent jusqu'à la fermeture. Ils en connaissent tous les recoins, ils se sentent parfaitement à l'aise. Et évidemment, on va dire que les livres et la lecture n'occupent vraiment pas le temps principal de leurs activités à la bibliothèque. Ils viennent d'abord pour utiliser les ordinateurs. Il y en a 2 qui sont à disposition. Ils les utilisent pour les exposer, mais surtout pour imprimer des images, pour regarder YouTube, pour jouer à des jeux. Car s'il y a bien un ordinateur à la maison, celui-ci est réservé aux aînés. Ils viennent aussi discuter avec les copains et les copines sur les coussins, dans l'espace des albums. Ils viennent jouer aux jeux de société. Ils viennent écouter des musiques au casque, dans le coin audio. Et de fait, On voit rarement les enfants s'installer seuls pour lire un livre, même s'ils en feuillettent de temps en temps, même s'ils sont très friands d'histoire quand elles sont lues par les bibliothécaires et qu'ils participent régulièrement aux ateliers qui sont organisés tous les samedis. Mais ils empruntent évidemment très peu souvent de livres. Alors, parmi leurs meilleurs souvenirs, on leur a posé quel est votre meilleur souvenir de bibliothèque ? Et donc, j'avais envie de garder leurs souvenirs parce que je les trouve très jolis. Alors, il y en a une qui a dit « C'est la première fois où j'ai eu ma propre carte. Alexis, le bibliothécaire, m'a dit « Tu achètes, elle a vraiment dit ça, tu achètes tout ce que tu veux, tu fais partie de nous et tu prends autant de livres que tu veux. » J'ai été toute contente, toute contente, toute contente. Ou encore celui de Myriam qui se souvient que tous les bibliothécaires ont fait, et je cite, « comme si j'étais là depuis hyper longtemps ». Donc, ils apprécient tous, non seulement l'écoute attentionnée des bibliothécaires, mais surtout d'être pris en compte, quoi. Et quant à la question sur ce qu'ils détestent, parce que c'était la question corollaire, leurs réponses, elles sont très intéressantes. Par exemple, il y a Abdelrahman qui répond « Alors là, moi, ce que je déteste, c'est la lecture et de ne pas ramener à manger. Et puis, c'est tout. » Suivi par Mélina, qui a enchaîné au Sussec, « Il n'y a rien que je déteste, j'aime tout. Il y a juste un truc que je n'aime pas, c'est même pas ramener un chewing-gum. Un chewing-gum dans notre bouche et ils nous sortent. Ils nous disent « Finissez-le, nanani, nanana, ça m'énerve. » Ou encore Imen qui dit « Mais normalement, ça n'existe pas, cette règle, interdire la nourriture. Mais quoi, s'il vous plaît, on peut faire un coin nourriture ?» Il y a un coin ordinateur, il y a un coin lecture, un coin de jeu, un coin de manga et tout. Il manque un seul coin, c'est celui de nourriture. Mais pourquoi ? On ne fera pas de miettes et on peut faire le ménage. Alors si j'insiste un peu sur cet aspect, c'est d'abord parce qu'il a suscité, vous l'avez entendu, l'engouement et l'indignation générale. Mais cela surtout, ça montre l'importance que les enfants attachent à la nourriture. Et on les voit d'ailleurs grignoter toute la journée sur la place. Mais aussi... C'était intéressant parce que quand j'ai rapporté ces paroles aux bibliothécaires à la fin de l'entretien, quand je leur ai rapporté cette revendication collective, ça les a étonnés, ça les a intéressés, car ils l'ignoraient totalement. Alors que les enfants se sentent en confiance avec eux, aucun d'entre eux n'avait osé le leur dire. Et j'ajouterai encore que les bibliothécaires, qui étaient alors en pleine réflexion sur la... réaménagement de la bibliothèque, ont depuis cet entretien installé un tout petit coin, d'ailleurs la petite salle où on était installé, où les enfants ont le droit de venir manger. Alors ce peu d'intérêt pour la lecture, ou plutôt ce mauvais rapport à la lecture, il s'est manifesté aussi dans leur difficulté à citer des titres, à part Ariol et puis Max et Lily, évidemment. Comme ils ont eu du mal à se rappeler des titres qu'ils possèdent à la maison, de toute façon, ils les comptaient sur les doigts de la main. Et quand Myriam a ajouté d'un seul élan, mais moi, j'ai des livres spéciaux, c'est pas le français, c'est des livres arabes, par exemple, pour apprendre à faire la prière, pour apprendre le Coran, ou juste pour apprendre l'arabe. Et tous les autres, donc les cinq autres, ont renchéri en disant « Moi aussi j'en ai, moi aussi, j'en ai quatre », a dit Imen, et c'est souvent que je les prends pour aller à l'école arabe. Donc en conclusion, je dirais juste qu'ici on est clairement dans un autre monde que celui dans lequel vit Céleste, et même la plupart des enfants que nous avons rencontrés. Pour eux, la bibliothèque, c'est un lieu de vie important, voire essentiel pour ces enfants de Montreuil. Peut-être d'abord parce qu'ils y rencontrent des adultes qui sont à leur écoute, qui répondent à leurs besoins, à leurs curiosités, et ce qui n'est peut-être pas le cas à l'école, enfin pas tout le temps, mais aussi, je pense que c'est important de le redire, que la bibliothèque représente une ouverture sur le monde qu'ils ne trouvent pas auprès de leur famille, et ce, pour différentes raisons.
Moi, je vais en présenter un dernier aussi, mais qui était pour ne pas prendre trop de temps non plus sur les autres intervenants après. L'idée, là, c'était d'avoir des usagères de bibliothèques, des usagères en milieu rural. Hein. On avait vraiment essayé de répartir hein, tous les profils hein, qu'on avait. Et là, ce qu'on voyait, c'était une famille hein, de milieu populaire en zone rurale. Hein. Cerisier, c'est la plus petite collectivité du panel, parce que c'est 989 habitants au cœur de Lyon. Et là, on avait un usage de la bibliothèque hein, qui était vraiment inscrit dans le courant, hein, dans qu'est-ce qu'on fait tout au long de la semaine, avec un usage à la fois de l'ordre de... familiale, hein, parce qu'il y avait la petite sœur qui était extrêmement solaire, rigolote, enfin elle avait une voix mais, générait du sourire et du rire dès qu'elle se mettait à parler. D'ailleurs, sa grande sœur le disait aussi, avec tout ce discours ambivalent de « j'aime pas ma petite sœur, mais je l'adore quand même hein, ». Et aussi un usage amical, puisque les deux grandes, hein, qui étaient Malvina et Lou, se retrouvaient hein, régulièrement à la bibliothèque hein, depuis l'école primaire, et c'était un petit peu leur spot, hein, leur point de rencontre, avec chacune un usage assez différencié, l'une y faisant ses devoirs, pas l'autre, mais en tout cas, c'était vraiment un lieu hein, de fréquentation, de pur plaisir, hein, et pour tout type d'activité, pas seulement pour la lecture, mais aussi pour des animations, et parler beaucoup de chasse au trésor, montrant que au final, il y a un usage, enfin, il y a un multi-usage hein, des bibliothèques, hein, qu'on sait parce qu'on lit des études là-dessus, mais de le voir concrètement concrétisé, ça fait quand même du bien hein, pour nous professionnels hein, qui, des fois, se demandons si on fait assez bien. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'enfants hein, qui ont cet usage hein, multiple, intense, intensif hein, de ce qu'on peut proposer. Et surtout, il y avait quelque chose qu'on a revu dans plusieurs portraits, dans pas mal d'entretiens aussi, c'est vraiment des lectures différenciées selon le lieu où on se trouve. On va lire certaines choses à la maison, on va pas les lire à la bibliothèque. On va lire à la bibliothèque, on va pas les lire à la maison. On va lire certaines choses au CDI, on va pas les retrouver à la bibliothèque publique et pas à la maison non plus. Typiquement, là c'est pour la petite Manon, un truc qu'elle regrettait à la bibliothèque de Cerisier, c'était qu'elle ne retrouvait pas les livres qu'elle avait chez elle, les chatons magiques. J'ai dû vraiment chercher ce que c'était hein, dans l'univers jeunesse du portail de la VNF. J'ai fini par trouver ce qu'elle disait, les chats magiques. En fait, c'est les chatons magiques. C'est le livre préféré. Et il y avait voilà, un usage, une lecture à la bibliothèque qui était plus focalisée sur les bandes dessinées qu'on lisait pas à la maison. À la maison, on lisait plus des romans parce que même si c'était une famille d'un milieu très populaire, hein, un chauffeur poids lourd, une auxiliaire puéricultrice, je crois, pour la maman hein, de mémoire, il y avait vraiment le livre hein, comme objet hein, sociologique signifiant, hein, comme étant quelque chose d'important hein, dans les pratiques culturelles qui étaient sans doute les seuls peut-être à avoir hein, dans leur quotidien. Voilà.
Je pense qu'on peut.
Ouais, on va ça on a dit qu'on en parlait pas. Il y avait celui-ci dont tu voulais parler. Pour les questions, voilà, parce que ces deux-là, c'était les non-usagers de bibliothèque qu'on est parvenu à avoir, mais on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Et donc, pour conclure...
Alors du coup, on va passer à une petite conclusion pour qu'on ait un peu le temps d'échanger sur cette enquête. Alors, pour conclure, on rappellera d'abord que ce dossier et l'enquête sur laquelle il reposait n'ambitionnait surtout pas d'avoir la teneur d'une enquête sociologique qui aurait été menée scientifiquement sur la base d'un panel clairement défini et représentatif et donc bien plus important. N'empêche, il nous semble que ce travail d'enquête, tout modeste soit-il, invite à réfléchir au prolongement qu'il pourrait avoir. D'abord par son aspect méthodologique qui fait ressortir deux points importants. Le premier, c'est que le fait d'avoir adopté une démarche qualitative par entretien semi-directif, c'est-à-dire des questions, mais on rebondissait sur les réponses des enfants, menées en face à face, a permis de recueillir des réponses fournies, réfléchies, tout autant que spontanées. Et le deuxième point, c'est qu'il est tout à fait possible de mener des enquêtes directement auprès d'enfants de 7 à 12 ans, bien sûr, avec toutes les précautions d'usage. Les enfants que nous avons rencontrés se sont montrés tous très disposés, coopératifs, volontaires et aussi surtout intéressés par l'exercice et ils ont eu du plaisir à témoigner de leur goût, de leur pratique et de leur représentation. Alors ces deux points nous sont d'autant plus importants que les seules enquêtes récentes dont on dispose aujourd'hui sur les pratiques de lecture, voire la seule, c'est celle commandée récemment par le CNL à Ipsos, les jeunes Français et la lecture, qui certes portait sur un échantillon de 500 personnes de 7 à 25 ans, mais dont la méthodologie par questionnaire sur Internet donne des réponses qui, c'est le moins qu'on puisse dire, manquent vraiment de précision. Donc ce genre d'enquête, comme ça, par enquête qualitative, vient compléter tout ça. Par ailleurs, ce travail d'enquête nous a montré que les enfants de 7 à 12 ans ont des tas de choses à dire et nous apprennent plein de choses sur leur pratique de lecture, sur leur rapport à la bibliothèque. Ils sont capables de réflexivité et des entretiens plus longs, plus denses auraient certainement permis de recueillir des données aptes à nourrir de façon approfondie la réflexion des professionnels sur la connaissance de leur public et sur leurs attentes. Reste bien sûr que ce premier débroussaillage de terrain mériterait d'être repris, d'être approfondi, consolidé, généralisé par des travaux plus ambitieux, à une échelle plus importante, en particulier dans les quartiers populaires et, comme on l'a dit, hors de France métropolitaine. Et puis, il y a des questions que nous n'avons pas abordées parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on n'a pas pris ce biais-là. Par exemple, celle du genre et des différences entre les filles et les garçons, même si certains portraits, vous le verrez à la lecture, font apparaître des différences d'investissement et de goût. Mais on espère quand même que tout ça vous a donné envie de vous plonger dans la lecture de ce numéro de la revue des livres pour enfants. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de présenter ces trois livres qui nous ont guidés. Je pense pas. Donc, on voulait juste vous les citer, ces trois livres qui ont été un petit peu des repères dans notre réflexion sur comment préparer cette enquête. Trois livres dont je vous invite évidemment à les noter sur vos tablettes.
Voilà, si vous avez des questions, c'est le moment. On peut peut-être juste faire une petite citation à propos du livre de Bernard Lahire, parce que ça a beaucoup résonné dans les entretiens que nous avons eu l'occasion d'analyser et de pour préparer les portraits. Lahire dit très justement hein, dans l'ouvrage, dans l'introduction, je crois, il dit les enfants vivent au même moment dans la même société, mais pas dans le même monde. Et dans les entretiens, s'ils cohabitent tous et toutes à la bibliothèque, il y a plein d'indices qui montrent que, effectivement, l'ambiance familiale, l'ivresse dont je parlais tout à l'heure, hein, l'accompagnement parental, les pressions parentales, elles sont parfois partagées dans tous les milieux sociaux, mais les accompagnements sont très, très différents et les enfants n'ont pas du tout les mêmes ressources. Et à ce titre, la bibliothèque, la section jeunesse en particulier, peut être un égaliseur social par certains côtés. Si vous avez des questions, on y répondra volontiers. Et moi, je retiens ce que disait aussi Véronique, in fine, hein, c'est-à-dire que ça mérite des approfondissements, voire des programmes de recherche hein, sur ces questions. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques, surtout si vous avez eu l'occasion de lire déjà le numéro de la revue des livres pour enfants?
Merci pour votre présentation. Moi, j'ai une question. Dans l'enquête du CNL Ipsos, ils font la différence entre la lecture loisir et la lecture à l'école. Vous avez un peu dit qu'il y avait des pratiques de lecture différenciées en fonction des espaces. Mais est-ce que les enfants vous ont parlé, eux, de leur rapport à la lecture imposée, entre guillemets, à l'école? Et est-ce qu'ils s'en distancient ou pas dans leur lecture loisir? Merci.
Alors je peux peut-être commencer justement parce que j'ai pas eu l'occasion de lire le portrait de Noé et Malik hein, qui ont 8 ans et qui étaient interviewés à Lume, une petite commune d'un peu plus de 1000 habitants dans les Ardennes, qui fréquentent pas la bibliothèque hein, mais qui sont interrogés à la bibliothèque. Alors c'est plutôt la bibliothèque qui vient à eux hein, puisque la bibliothécaire en complicité avec leur enseignante les fait participer au prix des incorruptibles. Et donc, il s'agit d'être jury jeunesse hein, pour sélectionner un album jeunesse parmi 6 qui sont proposés. Et au cours de l'entretien, alors eux-mêmes se déclarent lecteurs de bande dessinée exclusivement. Voilà, ils me parlent du Schtroumpf sauvage, ils me parlent d'Astérix et Obélix. Très étonné de voir d'ailleurs qu'il y a des Astérix et Obélix à la bibliothèque. Voilà, à 8 ans. Ah, One Piece, alors là, quand ils tombent sur One Piece, ils n'en reviennent pas, quoi, ça les décile. Et à mesure que l'entretien s'approfondit un petit peu, ils vont parler de lectures réalisées dans le cadre scolaire avec un plaisir infini. Et ils sont marqués par des ouvrages. Alors, je pense notamment à Igor et Suki, à La conquête de l'espace, mais La Maison Bleue aussi de Phoebe Wall aux éditions Les Éléphants. Et en tout cas, à cet âge-là, c'est-à-dire à 8 ans, On ne parle pas du tout de pression ou d'imposition scolaire, mais on est dans l'album jeunesse, hein, mais d'un plaisir infini. Et c'est quelque chose qui leur revient à mesure que l'entretien se prolonge. C'est-à-dire qu'au début, ils n'en parlent pas du tout, ils ne parlent que des bandes dessinées, ils ne parlent que des mangas. Et puis à mesure que l'entretien se prolonge, ah oui, mais ça, ça m'avait. Ah ça, ça m'a marqué. Ah ça, ça t'a plu ? Moi, ça ne m'a pas plu du tout. Et ils commencent à discuter. Et comme quand ils étaient jury, on voit bien qu'ils ont dû s'empoigner à un moment pour. Voilà, donc à cet âge-là, en tout cas à 8 ans, non.
Par rapport au cadre scolaire, ce qui est revenu assez souvent, notamment sur les enfants, hein, garçons ou filles, qui avaient le plus de plaisir à venir à la bibliothèque, c'était qu'ils aimaient par contre beaucoup moins y venir avec leur classe. Parce que quand ils y viennent tout seuls, ben, ils peuvent itinérer dans les espaces, aller partout, prendre le temps, se charger avec des dizaines de bandes dessinées. Enfin, les descriptions, des fois, ils prennent une hotte, hein, quasiment, pour emprunter. Et quand ils viennent avec leur classe, là, par contre, c'est « Ah, faut rester à un endroit, on ne peut pas bouger à un autre. Ah, je ne peux prendre qu'un livre. » Donc, ça crée de la frustration, hein, aussi. Hein. Faut pas pour autant, hein, jeter les visites de classe, hein, très très loin de là, en bibliothèque, hein, parce que c'est vraiment une nécessité, hein, ces partenariats historiques. Mais du coup, chez certains qui ont la plus grande pratique, hein, qui ont vraiment le plus grand amour, la plus grande connexion avec la bibliothèque, ça crée une espèce de petite frustration, hein, ce genre de visite-là.
Un petit mot pour Noé et Malik aussi, justement, par rapport à cette question de la lecture en milieu scolaire. Donc la bibliothécaire lit des ouvrages dans le cadre du prix des Incorruptibles, et Noé dit à un moment, elle lit tellement bien que des fois on s'endort. Donc la pression scolaire...
Merci beaucoup pour cette intervention. Et je voulais vous demander, effectivement, plusieurs participent aux acquisitions, du coup, ou au moins font des suggestions. Est-ce que ça a amené certaines bibliothèques à changer leur politique d'acquisition et à mettre un budget plus important sur les mangas, par exemple ?
Alors, de même, je pense pas que ce sujet ait été abordé. Déjà parce que, en fait, on s'intéressait vraiment à la parole de l'enfant lecteur. Ce qui se passait à côté, à la bibliothèque,
oui,
on n'a pas eu trop le temps, et puis c'était pas trop le sujet, le sujet non plus.
En même temps, Céleste, donc à Paris, à Clavavel, elle m'a bien précisé que les bibliothécaires étaient attentifs à ces propositions, que par exemple, quand elle voyait les derniers tomes qui étaient sortis en librairie, ils n'étaient toujours pas acquis à la bibliothèque, elle se dépêchait d'aller dire, faudrait peut-être, je sais bien que les commandes, c'est long et tout ça, mais enfin quand même, il faudrait que ça aille un petit peu
plus vite. Ils les attendent avec impatience, c'est pareil chez nous. Et je voulais aussi dire qu'effectivement, les classes, c'est extrêmement important. On a un nom quand même assez. Pourtant, je ne travaille pas en section jeunesse, mais en section adulte, mais même en section adulte, il y a des jeunes qui arrivent et qui sont fiers de présenter à leurs parents la bibliothèque. Et c'est grâce aux classes, en fait, qu'ils ont connu la bibliothèque et qu'ensuite, ils viennent seuls ou avec leurs parents. Donc, c'est vraiment crucial.
Pour revenir sur la question des acquisitions et de l'influence des enfants, hein, dans l'acquisition des mangas notamment, dans l'entretien d'Emily, elle parle à un moment longuement de My Happy Marriage, qui est un shoujo, à tel point que la bibliothécaire qui l'interviewe lui dit « Bon, bah, ça va, j'ai compris. Je vais acheter tous les volumes. » Donc, incidence directe, oui.
Ouais. Juste pour revenir sur les accueils de classe, moi, quand j'ai commencé à travailler dans le métier il y a 15-16 ans, il y a quelqu'un dans le réseau de la ville de Paris, Jean-François Jacques, donc c'était l'un des combats de vouloir diminuer les accueils de classe parce qu'il trouvait que c'était trop identifié la bibliothèque avec l'école. Et je trouvais que c'était une bêtise, hein, de faire ça, parce qu'il faut y drainer, hein, tout le temps les enfants, hein, les ados. Et si aujourd'hui, dans l'enquête CNL, la bibliothèque, c'est le deuxième lieu préféré pour lire, je pense que c'est pas pour rien, c'est grâce à nous bibliothécaires aussi.
Oui, merci beaucoup pour votre présentation. Moi, je travaille avec des ados, et je trouve qu'effectivement cette idée d'approche qualitative pourrait beaucoup marcher avec les ados, vu que on sait bien que les ados vers 14-15 ans, c'est là où on commence à perdre les jeunes dans les bibliothèques, c'est là où on commence à avoir de moins en moins de jeunes qui viennent alors qu'ils venaient avant. Et du coup, effectivement, avoir le même genre d'approche, peut-être pourrait nous permettre d'en savoir plus sur pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on les perd et comment est-ce qu'on peut les ramener.
Voilà. Merci pour votre intervention. Moi, ça me fait penser aussi à une idée, c'est-à-dire que je me suis dit que ce dispositif qui avait été mis en place et pris en charge par les bibliothécaires elles-mêmes, je crois qu'il y avait un homme quand même parmi l'ensemble des bibliothécaires, mériterait peut-être d'être reproduit, développé. Et moi, je pense que ça peut être utile aussi, non seulement à vos rapports d'activité, hein, peut-être, parce que ça présente une image, pour le coup, qualitative, hein, de la réponse des publics, de l'impact que la bibliothèque peut avoir sur les publics, mais qu'elle peut être renvoyée aussi aux lectrices et aux lecteurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on se rend bien compte que les enfants ont profité de ces échanges, parce que ça les a amenés, d'une façon réflexive aussi, à s'interroger eux-mêmes sur leur rapport à la bibliothèque, aux livres et sur leur rapport aux bibliothécaires aussi. Et là, il y a plein d'exemples d'interactions avec les bibliothécaires qui sont assez étonnantes. Et encore une fois, sur une relation d'égalité, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment considérés comme de véritables usagers et on sent bien que ça leur fait très plaisir. Ils sont très reconnaissants, quoi. Ça les incapacite. Ouais. Alors, une petite image, si vous n'avez plus de questions, pour terminer. Ça y est, voilà. Alors, c'est désolé, hein, le grain n'est pas génial, mais vous pouvez le retrouver dans l'ouvrage qui a été consacré aux 70 ans de l'Heure Joyeuse. Donc, on va fêter les 100 ans de l'Heure Joyeuse. Et alors là, vous avez une section jeunesse, donc la première section jeunesse historique en France, hein, puisque la bibliothèque de l'Heure Joyeuse a été offerte aux Français par les Américains, hein, dans l'après-guerre. Hein, et là, la photo est prise en 1934. Et alors, on voit des enfants. Alors, d'un point de vue vestimentaire et au niveau de la posture, évidemment, au niveau du tout livre aussi, on le voit bien, il n'y a pas d'autre support. Le contraste est fort, peut-être, avec ce qu'on peut trouver dans les sections jeunesse aujourd'hui. Mais en même temps, je trouve que l'intérêt pour l'album, c'est un album, hein, avec des illustrations. Et la photo est particulièrement intéressante. Et le petit jeune homme sur la droite avec sa jolie cravate, qui a fait carrière par la suite, c'est Charles Aznavour, qui était usager de l'Heure Joyeuse. Voilà. Donc l'exposition se tiendra à la bibliothèque Sagan au mois de novembre, à la rentrée prochaine. Voilà. Merci.